Chers frères et sœurs, remercions le Seigneur qui, dans sa parole, dans son dialogue avec nous, nous permet de comprendre qui nous sommes, à quoi nous sommes appelés, ce qui menace en nous notre vocation d'enfant de Dieu et qui nous propose dans le chemin du carême cette vraie intelligence de notre croissance spirituelle que lui seul peut nous donner, car lui seul qui nous a fait et pour qui nous sommes faits nous connaît entièrement. Peut-être bien que le premier effort de carême que nous devrions faire, c'est de nous laisser de nouveau largement instruire par Dieu. Que nous l'écoutions nous dire ce qu'il nous propose. Il nous le dit dans sa parole vivante et il nous le dit au plus haut point dans son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre ce que Jésus vit au désert, non pas pour lui, mais pour nous, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes appelés à vivre en lui, il nous faut, comme la liturgie de la parole nous le propose, remonter à l'origine, à la Genèse. Si nous ne partons pas, frères et sœurs, de la Genèse, de ce que Dieu a voulu faire en nous, de ce qui a été abîmé par le péché des origines et ce qui est abîmé par notre péché chaque jour, nous ne pouvons absolument pas comprendre quel est le sens du mystère pascal de la passion et de la résurrection du Christ. Et nous ne pouvons absolument pas comprendre ce que Jésus nous enseigne comme chemin de vie, de communion avec son Père et avec nos frères dans les tentations au désert. Reprenons donc notre propre origine. Le livre de la Genèse, nous le savons, n'est pas un livre qui décrit comment s'est passée la création historiquement. Le livre de la Genèse nous dit ce que Dieu a voulu faire en nous et de nous. Et nous avons entendu dans la première lecture une partie du deuxième chapitre de la Genèse qui est le deuxième récit de la création. Vous vous souvenez qu'il y a le premier récit en 7 jours et le deuxième récit que nous venons d'entendre. Dans ce récit, l'homme est placé sur la terre comme au milieu d'un jardin. Dieu a fait tout le monde créé comme un jardin pour nous permettre d'entrer en communion avec lui, entre nous, et de nous assumer nous-mêmes comme ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus ressemblant à lui-même dans toute la création. Qu'est-ce qui se passe dans le péché originel? Il est important de le comprendre, frères et sœurs, parce que la vraie réponse au péché des origines, c'est Jésus qui nous la donne dans son chemin au désert, dans la tentation et vers sa passion et sa résurrection. Ce qui se passe, c'est que le démon, le tentateur, propose à Adam et à Ève une intelligence pervertie de leur propre mystère. Il leur propose de connaître le bien et le mal. Dans le langage biblique, cela signifie de décider eux-mêmes quel est le bien et quel est le mal, et de devenir Dieu, de devenir divin, non pas par une communion avec Dieu où nous recevons une participation à sa propre vie, mais en se passant de Dieu et en se faisant soi-même Dieu et la mesure du bien et du mal. Se faire soi-même la mesure du bien et du mal, frères et sœurs, c'est la racine du péché originel. Et c'est la racine de chacun de nos péchés. Quand nous péchons, comme Adam et Ève, nous sommes attirés par quelque chose de séduisant et de délectable. Nous ne commettrions aucun péché s'il n'exerçait pas sur nous une certaine attirance. Cette attirance que Satan exerce sur Adam et Ève consiste à décider par eux-mêmes de quel est le bien et quel est le mal et de se passer de Dieu. Ils n'acceptent plus de se recevoir de Dieu comme ses enfants, comme ses créatures, comme son image. Mais c'est là le drame du péché. Non seulement on risque de se tromper beaucoup sur quel est le bien et quel est le mal, mais en se coupant de la source du bien, nous nous coupons de la source de notre propre bonheur. Nous ne pouvons qu'être malheureux. Et cette communion que Dieu avait voulue pour nous, cette harmonie de grâce, de joie, de lumière entre lui et nous, entre nous, entre les uns et les autres, et avec nous-mêmes, est abîmée, brisée par le péché des origines. Saint Paul nous dit dans ce très beau passage de la lettre aux Romains que nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure, car ce que Dieu avait fait en Adam et Ève, il veut le refaire de manière plus belle, plus forte encore dans le mystère du Christ et de l'Église. Du Christ qui est le nouvel Adam qui, comme Fils de Dieu incarné, fait chair, fait homme, et l'homme parfait qui va nous apprendre la vraie mesure de l'homme et la source de notre vrai bonheur, qui va nous réentraîner vers la lumière. Et l'Église, qui est la nouvelle Ève, la nouvelle mère des vivants en qui nous naissons de la grâce du Seigneur. Alors regardons le Seigneur. Il est conduit au désert par l'Esprit Saint lui-même pour être tenté par le démon et nous apprendre à résister au piège toujours séduisant, toujours intelligent, mais toujours perverti du tentateur. On pourrait dire bien des choses sur ces trois tentations, je ne voudrais en garder avec vous ce matin que l'un ou l'autre aspect. Le premier concerne ce qui nous nourrit et ce qui nous donne l'intelligence de la vérité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est écrit, Jésus répond toujours à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne nie pas que nous avons besoin du pain de cette terre, que nous avons besoin des biens matériels. Mais il nous rappelle que Dieu seul et sa grâce peuvent nous faire comprendre qui nous sommes, qu'aucun bien matériel ne peut nous combler, que nous ne travaillons pas seulement pour la nourriture de cette terre, mais pour la nourriture qui donne la vie éternelle, que la vraie mesure de l'homme, c'est Dieu seul qui la connaît et qui peut nous la donner. Souvenez-vous, Adam et Ève, Satan leur avait proposé l'intelligence, mais c'était une intelligence pervertie qui voulait couper de Dieu la source de la vérité. L'intelligence que nous donne la parole de Dieu et qu'elle seule peut nous donner est celle de notre vocation d'enfant de Dieu, notre vocation à la cité de Dieu, à la patrie véritable, la vie bienheureuse avec Dieu. Vivons d'abord de la parole de Dieu, comme une parole qui nous nourrit à l'intérieur de nous-mêmes de la vérité dont nous avons besoin sur Dieu, sur le monde et sur nous-mêmes. La deuxième tentation consiste à mettre le Seigneur à l'épreuve. Jésus la retrouvera sur le bois de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, dis donc au Seigneur, ton Père, de te faire descendre de cette croix. mettra pas le Seigneur à l'épreuve, le Seigneur ton Dieu. C'est une tentation subtile, frères et sœurs. Combien de fois, plus ou moins, nous demandons à Dieu de répondre à notre prière, de nous donner ceci et cela, en échange de quoi nous croirons davantage en son amour. Combien de fois nous entendons « j'ai prié, mais le Seigneur ne m'a pas répondu, je ne crois plus en lui ». Croire, c'est ne pas mettre le Seigneur notre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire recevoir, comprendre dans la foi qu'il est amour, qu'il est lumière, qu'il est vérité, qu'il est vie, qu'il est bien, qu'il est bonheur pour nous et lui seul entièrement. Et qu'en même temps, il reste caché, mystérieux, au-delà des apparences et même du scandale, du mal, de la souffrance des innocents. Mettre le Seigneur, notre Dieu, à l'épreuve. L'instrumentaliser pour nos propres vues. Ne pas lui faire confiance. Ne pas savoir que Dieu seul est Dieu. Qu'il est à la fois infiniment proche de nous et infiniment transcendant. Qu'il nous dépasse, que nous ne pouvons pas le servir comme un objet que nous pouvions posséder. Nous ne pouvons pas posséder Dieu et l'instrumentaliser. Nous sommes appelés à croire en la puissance de son amour, parfois au-delà des apparences et parfois même contre les apparences. Où est Dieu quand son fils est rejeté et cloué au bois de la croix? Et pourtant il est là et il se donne à nous dans la personne de son Fils. La troisième tentation, celle de la domination terrestre sur les royaumes du monde, en échange d'un bien de sujétion à Satan, rejoint aussi la tentation d'Adam et Ève. Il s'agit de pouvoir connaître, dominer, mesurer. Combien de fois, frères et sœurs, nous sommes tentés de dominer toutes choses, de dominer les autres, de savoir ce qui est bon pour eux et de leur dire, de savoir même ce qui est bon pour nous et de ne pas permettre à notre Dieu de nous laisser, de nous conduire vers le bien que lui sait être le meilleur pour nous. Tentation de domination entre nous, sur nous-mêmes et sur le reste de la création. Adorer Dieu seul est la mesure qui nous permet de vivre non pas comme des dominateurs, mais comme des instruments, des auxiliaires, des participants de la puissance de l'amour de Dieu qui, elle, ne veut pas nous dominer pour nous écraser, mais pour nous rendre libres et nous élever dans la communion de son amour. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Dieu seul est Dieu, c'est à son image que nous sommes. Nous sommes invités durant ce carême à nous laisser instruire et conduire par lui pour connaître la vraie mesure de la lumière qu'il veut et de la joie qu'il veut pour nous.